Donc c'est vrai, lorsqu'on parle de la pauvreté, on découvre peut-être que la pauvreté est un peu compliquée, un peu plus compliquée qu'on avait pensé. En fait, il y avait un livre sur la pauvreté et les engagements chrétiens. Et l'auteur, il a demandé à 3 directeurs des grandes organisations qui travaillent parmi les pauvres. Juste avec une question très pratique. Lorsque vous voyez un SDF qui vient vers vous, vraiment dans le besoin, qu'est-ce que vous faites, vous personnellement, les directeurs de ces grandes organisations? Il y avait trois réponses différentes. Première, jamais, je donne l'argent, jamais. Si on demande l'argent, jamais, c'est pas bien ça. Deuxième, ça dépend de la situation, je parle un peu, et peut-être que je donne l'argent. Et le troisième dit, oui, je donne pratiquement toujours. Alors, c'est les directeurs, c'est les experts. Et lorsqu'on voit, la pauvreté est compliquée, peut-être on pourrait dire, alors je ne suis pas un expert dans ce domaine, et il vaut mieux laisser les autres s'en occuper. Et ce soir, j'aimerais voir un des grands récits, un des récits plus frappants dans les évangiles, où Jésus nous donne un nouveau regard sur les pauvres et les personnes qui aident les pauvres. Pour bien retourner à la base qu'on a dans l'enseignement de Jésus. Donc ce texte va, j'espère, nous encourager à aider les pauvres sans les appauvrir. Il s'agit du récit des brebis et des boucs en Matthieu 25. Emmanuel Jacob est un spécialiste sur le livre de Matthieu et il vient de l'Afrique du Sud. Il écrit ceci par rapport au sujet de la mission en Matthieu. Si quelqu'un me demandait la pertinence de l'évangile de Matthieu au sujet de la mission, je citerai immédiatement Matthieu 25 et non pas Matthieu 28, 19, « Allez, faites disciples de toutes les nations ». Ceci parce que j'ai connu, que j'ai vécu dans l'apartheid de l'Afrique du Sud, où le contraste entre le riche et le pauvre, entre les puissants et les impuissants est flagrant, est un véritable défi. Et en ce qui me concerne, je ne pensais pas au message de Matthieu 25 en termes d'un appel à la mission. Mais comme M. Jacob, pour ceux qui ont d'expérience en travaillant parmi les pauvres, ce passage est indispensable pour la mission. Donc, si vous avez votre Bible, je vais lire Matthieu 25, versets 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison. Et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et avons-nous recueilli, ou nu, et avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, ou sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudite, allez dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous n'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous n'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous n'avez pas recueilli. J'étais nu. Vous n'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous n'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons neveu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison, n'avons-nous pas assisté ? Et il leur répondra : Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petites, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc, ce récit nous donne deux perspectives vraiment surprenantes. Un pour ceux qui servent les pauvres et pour les pauvres eux-mêmes. Donc, première perspective, ceux qui servent les pauvres. Et c'est ça le perspective. Puisque le salut est un don gratuit, les chrétiens peuvent gratuitement servir les pauvres sans une démarche intéressée. Jésus commence en donnant une description du jugement des nations. Lui-même, le Fils de l'homme, va séparer les uns des autres. Deux groupes, les justes et les injustes, les justes comparés aux brebis et les injustes comparés aux boucs. Et c'est important de voir que Jésus précise la raison que les justes entrent dans le royaume du Père. C'est en verset 34. « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, et prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » En grec, le mot « prenez possession », c'est le mot « héritier ». Et cela contient l'idée de quelque chose qui n'est pas mérité. Hériter, c'est de recevoir quelque chose à cause d'une relation. Et c'est basé sur la volonté de ceux qui donnent l'héritage. Mais la surprise se trouve dans le verset 37 et suivant, qui relève la différence entre les justes qui sont héritiers et les injustes qui ne sont pas. Les justes lui répondront : « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ?» etc. Les justes ignorent la portée véritable de leurs bonnes œuvres. Dans les yeux de Jésus, ils servent sa propre personne d'une manière directe, mais eux ne le savent pas. Vous vous souvenez de Matthieu chapitre 6, verset 1, Jésus dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice. Bon, » Déjà, arrêtons-nous là, il faut se garder de quelque chose en pratiquant la justice, déjà c'est quelque chose de très très important, de pratiquer la justice, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Et ce que Jésus nous montre, je crois, en chapitre 25, c'est la justice des brebis était dans un sens invisible à leurs yeux. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils faisaient et ce n'était pas calculé ou intéressé de leur part. On peut comparer cela avec ce que Jésus dit en Matthieu chapitre 7. Écoutez Matthieu 7, versets 21-22. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Dans Matthieu 25, les brebis et les boucs, les justes ne reconnaissent pas leurs bonnes œuvres. Et ici, les injustes sont prêts à énumérer leurs propres œuvres. Et les œuvres qu'il mentionne sont impressionnantes, très impressionnantes. Chasser les démons, de prophétiser. Alors c'est sûr que c'est des bonnes œuvres d'ailleurs. Et Jésus a envoyé ses disciples à faire ces choses. Mais ce n'était pas pour mériter quelque chose au moment du jugement. Par contre, les justes en Matthieu 25, ils n'y pensaient même pas. Ben, imaginons, deux musiciens qui veut jouer un jour dans un grand orchestre symphonique. Et tous les deux reçoivent une invitation à jouer dans des orchestres. Donc le premier, on lui offre une place dans l'orchestre, mais il doit passer devant un jury. Donc il doit prouver qu'il est le meilleur candidat parmi d'autres candidats. Donc il doit jouer mieux que tous les autres pour avoir place, pour avoir la place. On imagine un deuxième musicien. Il est invité par une chef d'orchestre de renom et le chef d'orchestre veut montrer toutes ses capacités, notamment qu'il peut diriger un orchestre composé de n'importe quoi et en sortir quelque chose de beau. Alors, le premier musicien, il doit travailler très, très dur pour montrer qu'il est meilleur. Et le deuxième va se donner aussi. Mais plus il joue bien, plus il va montrer que le chef d'orchestre, c'est lui qui est doué. Deux attitudes bien différentes. L'illustration est limitée, mais on trouve ces deux attitudes devant Jésus au jugement. En Matthieu 7, ceux qui appellent Seigneur, Seigneur, ils essayent de réussir de concours, de jouer bien leurs bonnes œuvres devant le Seigneur, de montrer leur talent. Et Jésus dit, non, vous avez mal compris votre rôle dans l'orchestre. Vous ne m'avez jamais connu et moi non plus. Je ne vous ai jamais pas connu. Mais aux brebis, en Matthieu 25, Jésus dit, vous êtes bénis de mon Père. Vous avez joué mieux que vous pensiez. Parce que chaque fois, vous le faisiez par amour, et c'est comme vous le faites à moi, le chef d'orchestre. Et là, c'est important. Si on aide les pauvres dans un effort de nous justifier, nous servons nous-mêmes. Et en fin de compte, on ne va pas vraiment aider les pauvres. Et moi, je crois, lorsqu'on a des moyens, comme chez moi, les églises, c'est plus facile, dans une manière subtile, de faire des œuvres pour être vu. Si les gens de l'époque voulaient montrer leurs actions, chasser des démons, faire des miracles, prophétiser, ces choses feraient des belles photos sur Facebook, hein, non? On dira, moi, en train de chasser un démon, n'importe quelle place. Bon, mais si nous sommes vraiment justifiés gratuitement au fond de Jésus, par sa grâce de Jésus, nous serons sensibles aux besoins des pauvres. Vous voyez, Jésus nous a fait entrer dans son royaume en jouant vraiment le morceau parfait à notre place. Il a fait tellement mieux, il n'a pas simplement donné de la nourriture à notre faim, il n'a pas simplement donné l'eau à notre soif ou vêtements à notre nudité, il est devenu toutes ces choses pour nous. Pour le chrétien justifié par la grâce, on voit Jésus lui-même nu, étranger, avec faim, avec soif, lorsqu'on comprend le message de croix. C'est là que Jésus, il est devenu pauvre pour nous. Et cette grâce nous libère de service des pauvres sans arrière-pensée, sans besoin de combler un vide en nous-mêmes. Donc voilà la première perspective pour ceux qui servent les pauvres. Mais deuxième, pour les pauvres eux-mêmes, quelque chose de bien frappant. Et c'est ceci. Jésus s'identifie aux croyants pauvres à tel point que les pauvres vont juger le monde avec lui. Bon, Jésus décrit ici le grand moment de jugement où la justice sera rendue. Bon, et la scène se déroule comme dans un tribunal. Pour savoir qui sont vraiment bénis de Dieu, Jésus fait appel aux témoins. Les témoins sont ceux qu'il appelle les plus petits de mes frères. Bon, et ce terme, mes frères, c'est une référence, je crois, vraiment aux croyants. Donc, dans l'évangile de Matthieu, les frères et sœurs de Jésus, c'est les personnes qui le suivent et qui appartiennent à lui. Puis il dit, la manière que vous avez traité les plus petits des croyants, c'est la manière que vous m'avez traité moi-même. Bon, c'est-à-dire, Jésus s'identifie avec les pauvres croyants au tel point que la réponse envers les pauvres indique la vraie réponse à lui. Cela indique une réalité bouleversante pour quelqu'un comme Emmanuel Jacob, qui sortait d'une vie en Afrique du Sud et la différence entre les riches et les pauvres était si marquante. Et n'est-il pas le cas dans notre monde aujourd'hui? Il est facile de croire que ce sont les riches qui détiennent le pouvoir sur les pauvres dans la société. Et souvent, ce sont les plus pauvres qui sont vulnérables à l'injustice et à l'exploitation. Et souvent, c'est facile de croire que les riches dirigent en réalité le destin des pauvres. Ici, parce que Jésus, c'est lui le roi qu'on vient de chanter, il nous dit exactement l'inverse. Ce sont les pauvres, les croyants pauvres, qui vont indiquer le destin éternel des nations, y compris les riches. Et vous vous souvenez hier soir, comme les pauvres eux-mêmes ont indiqué que la pauvreté donne l'impression qu'ils n'avaient pas une voix, ils ne peuvent pas se faire entendre. Donc, je relis ce témoignage du Cameroun d'un pauvre. Les pauvres ont un sentiment d'impuissance et une impossibilité à se faire entendre. Imaginez maintenant la valeur de cette perspective de Jésus. Les pauvres croyants font partie des choses les plus importantes dans l'histoire du monde. Imaginez un homme qui était extrêmement riche. Il ne s'est jamais marié et il n'a pas hérité, sauf un seul neveu. Il était très, très généreux avec ce neveu, mais il voulait que son héritage soit bien utilisé avec justice et équité. Il se pose la question, si son neveu sait être bon et généreux, alors il se met en vêtements d'une personne très, très pauvre, et il se met devant l'entrée de la maison de son neveu dans une condition de faim et soif, dans l'apparence. Le neveu sort de sa maison, il voit son oncle, qu'il ne reconnaît, il prend pour un SDF et brusquement il lui dit de dégager et de s'en aller. La réponse, alors, au pauvre a indiqué la vraie condition du cœur du neveu, qui n'a pas vraiment été transformé ou changé par la générosité de son oncle. Vous voyez, de comprendre le salut de Dieu nous change au fond, nous change les cœurs et nous transforme afin que nous sommes plus sensibles aux vrais besoins des pauvres, sans chercher notre propre justification ou intérêt. En même temps, le salut change les pauvres aussi. Jésus les donne la dignité immense de relever la vraie condition des cœurs de toutes les nations. Donc lorsque on est parmi les pauvres, on est parmi ceux qui sont inscrits dans une école de droit. Je ne sais pas ce qu'est la plus prestigieuse école de droit ici en France, mais vous pouvez imaginer d'avoir les amis qui sont inscrits dans cette école qui va aller à la palais de justice, vraiment très important. Alors, voilà la condition lorsqu'on travaille parmi les pauvres. Dieu va appeler à exposer la justice pour les nations à travers de leurs témoignages. C'est fort, et pour l'évangélisation, le travail humanitaire. Faire évangélisation et voir le progrès de l'évangile de sorte que les gens suivent Jésus, c'est renverser ceux qui détiennent le vrai pouvoir dans la société. C'est une chose incroyable. Et aussi, ça nous touche, ça nous donne à vraiment faire la société, l'humanitaire. Juste pour terminer, je partage une expérience qui m'a éclairé cette année. Il y avait un groupe qui faisait un voyage missionnaire à Chicago. Ils venaient de quelque part plus au sud. Ils voulaient faire une grande réunion de prière dans la région de Chicago. Alors, ils avaient mon nom. Ils m'ont contacté en disant, est-ce que nous pouvons utiliser votre église pour faire cette réunion? Et j'étais d'accord. Et quelques mois plus tard, ils sont arrivés. Et c'était génial. C'était plein de jeunes. Ils prenaient beaucoup de photos dans l'église. Ah oui, on est là. Fait des updates sur leur iPhone. Et alors, nous sommes à Chicago. Hier, on est allé en centre-ville pour prier pour l'Institut biblique. Là-bas, on a mangé du pizza style Chicago. C'est la chose, nourriture qu'on a à Chicago qui est vraiment répandue, d'ailleurs. Et maintenant, on est dans une église dans le nord et on va continuer à demander à Dieu vraiment pour son travail dans cette ville. Et au bout d'un moment, pour un instant, j'ai vu que ce groupe voyait notre région seulement en termes de notre besoin spirituel. Et ils voulaient ardemment que leur rayon de prière change tout. Et c'est certain que nous avons un besoin spirituel immense. Mais Dieu fait plein de choses déjà dans notre église et dans beaucoup d'autres. Et en ce moment, j'étais vraiment frappé en pensant de toutes les fois que j'ai fait exactement la même chose en faisant les missions, ou mon attitude quand je faisais les voyages court terme. Parmi les pauvres, surtout les croyants, Jésus est là. Il s'identifie. Il va les utiliser pour nous juger, pour juger le monde. S'il s'identifie à tel point, ça nous rend beaucoup plus sensibles qu'il est là déjà. Et on veut rejoindre ce qu'il est en train de faire parmi nos frères et nos sœurs dans le monde.